Enviromicro, l'émission de ceux qui réduisent leurs émissions. Envirobat Occitanie, centre de ressources et réseau d'acteurs du bâtiment et de l'aménagement durable, lance sa série de podcasts Enviromicro. Notre objectif, aller à la rencontre des acteurs qui, par leur pratique, contribuent à la transition énergétique et environnementale de nos bâtiments et de nos territoires.
Épisode 2, low-tech et réemploi, un grand pas pour la sobriété environnementale.
Pour ce deuxième épisode, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous emmène visiter Macondo, un tiers-lieu en périphérie de Montpellier. Sur près de 2000 m² de surface utile, sont installés des ateliers, des bureaux et une école. Le projet était de construire des bâtiments exemplaires avec l'utilisation d'un maximum de matériaux de réemploi, incluant les équipements techniques. En compagnie de deux autres acteurs du réemploi, Guillaume Brault de Caprionis, un bureau d'études et de négoces spécialisé dans le réemploi, qui a participé au développement de ce site et que l'on interrogera à la fin, et Sophie Costaud de La Grande Conserve, une plateforme physique de réemploi basée à l'Odève. Nous nous laissons guider par Benjamin Clouet, gérant et cofondateur de l'entreprise EcoSec et président et cofondateur de Macondo.
On est à Macondo. Macondo, c'est une SIC. Il y a 6 structures ici qui travaillent toutes avec un logiciel de réemploi maximum et une philosophie qui est un peu plus grande des basses technologies en général. L'idée des basses technologies, c'est il y a 3 grands principes. Le premier, c'est l'utilité. Et en fait, on raisonne vachement sur la question du besoin fondamental. Et à partir du moment où on a bien analysé le besoin, on essaye de fabriquer des outils ou d'avoir des outils sur lesquels on a la main et qu'on peut réparer. Et donc, c'est l'accessibilité des savoir-faire et des objets qu'on a, qu'on va transformer en nos outils qui nous permettent de répondre à ces besoins. Alors les besoins, c'est se chauffer, se loger, se nourrir, se déplacer, c'est vraiment les besoins fondamentaux. Donc c'est utilité et accessibilité, et le dernier, c'est la durabilité, parce qu'en fait, à partir du moment où on sait réparer et où on sait construire tous les outils qui nous fournissent ces besoins essentiels, et ben en fait, on a tué l'obsolescence programmée. Et c'est vraiment la base de cette approche. C'est d'avoir des choses sobres. Donc c'est on essaye de le faire de différentes formes, par le biais de structures très complémentaires ici. Ceux qui sont un peu à l'origine, c'est EcoSec. J'ai une double casquette, moi, de gérant et cofondateur d'EcoSec et président et cofondateur de Macondo. Mais sur la casquette EcoSec, nous, on travaille sur la circularité des matières organiques en faisant et des toilettes sèches et des composteurs. Et on essaye de mixer et de faire des choses avec l'approche urbaine, principalement. Donc on est 10 employés et la dernière activité d'EcoSec, c'est de faire des murs végétaux climatisés, enfin climatiseurs plutôt. C'est en fait d'utiliser les eaux grises du bâtiment pour rafraîchir l'intérieur. Les premiers essais, là, on arrive à avoir des baisses de 10 degrés sur des modules expérimentaux, c'est assez intéressant. Donc on travaille sur les flux à l'intérieur de la maison de la même manière que sur les flux physiques de déchets. C'est logique pour tout le monde de séparer le verre, l'aluminium, le fermentissible sur les solides. Et c'est complètement idiot de faire caca dans 50 mètres cubes d'eau potable. Nous, on fait la promotion de la séparation à la source. Donc ça, c'est EcoSec. Il y a une autre entité qui est ici, qui est l'école Être, qui est une initiative toulousaine qui est de mettre en parallèle le fait qu'il y ait 100 000 jeunes qui n'aient pas de diplôme entre 18 et 25 ans chaque année avec les 800 000, alors à chaque fois ça monte, c'est 800 000, 2 millions d'emplois qui sont prévus sur la transition écologique. Donc c'est l'école pour ceux qui n'aiment pas l'école, et ils viennent, et Macondo est un superbe bac à sable pour leur apprendre tous les métiers de la transition écologique qui peuvent être l'ossature bois, les fabrications en terre, le réemploi en général. Et donc ils participent, c'est un peu le cadre formation et social de Macondo. Derrière, il y a une autre activité qui est sur des tiny houses, et là, qui est une réflexion sur l'éco-habitat poussé à son maximum, avec des modules de vie qui sont des tout petits volumes à chauffer, des tout petits volumes à construire. Donc, il y a un crédit carbone et un impact là où on va être placé pour vivre, qui est réduit énormément, quoi. Et pareil, ces tiny houses sont toutes équipées de basses technologies qui permettent de chauffer l'eau, de chauffer l'air, de récupérer le puits et de plein d'autres choses assez, assez maline pour rendre la tiny house complètement autonome. L'histoire de Macondo, c'est un combat contre une décharge. C'était Georges Fresh qui voulait faire une décharge il y a un bout de temps de ça, sortie d'autoroute, cuvette en argile. Et il y a des riverains et plein d'associatifs qui se sont, et des élus aussi, qui se sont mobilisés, qui ont réussi à qu'elle voit pas le jour. Et donc, après ce combat de 20 ans, ils ont réussi à faire gain de cause. Ils ont installé des ombrières photovoltaïques, qui sont des hangars de 600 mètres carrés chacun. Ils en ont mis 21 sur l'ensemble de la vallée, avec la volonté d'y mettre des activités écologiques, sociales et culturelles. Et donc, on a répondu à une espèce d'appel à projet local pour proposer notre approche, qui est sur la construction écologique, sur le réemploi, sur les basses technologies en général, et de faire un centre ressources, un centre de formation qui soit aussi laboratoire, mais qui soit aussi une zone d'activité. Et donc, on a 2000 m² qu'on a décidé de faire le plus engagé possible, avec un chantier d'insertion et avec du matériau de réemploi autant que l'on pouvait. Donc, on s'est vite mis en réseau avec les acteurs locaux du réemploi, notamment Caprionis, il y avait les chantiers des phages, il y avait Sophie Costeau qui est là aujourd'hui. Et on a réussi à faire un chantier qui, au final, alors on peut considérer que c'est des aides, hein, avec le chantier d'insertion, mais on a réussi à réduire considérablement le prix de ce chantier-là, puisqu'on a quasiment 2000 m² utiles d'ateliers et de bureaux mélangés pour un prix de 200 000 euros. L'énorme opportunité qu'on a pour faire de ce lieu une vitrine du réemploi, c'est qu'on a un bail à construction de 30 ans. Et ça fait que le bail à construction, c'est la mairie qui n'a pas le financement pour créer une activité quelque part, mais elle a du foncier. Et elle va dire, bah, allez-y, la société civile, je vous en donne l'usage pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, dans notre cas 30 ans. Et dans 30 ans, je récupérerai l'ensemble des bâtiments. Et juste ce fait-là d'être sur l'usage plutôt que sur de la propriété avec une logique de revente, possiblement de spéculation et tout ça, eh ben on se retrouve dans quelque chose où on fait appel au bon sens, mais on s'affranchit complètement de l'assurance décennale qui, de notre analyse, dans le réemploi, l'assurance décennale tue toute possibilité de réutiliser un carreau, de réutiliser un isolant, de réutiliser une porte, de réutiliser un bout de... Donc sur tout ce qui est hors d'eau, hors d'air, c'est très compliqué de fonctionner hors du neuf aujourd'hui.
Merci pour cette présentation détaillée de l'histoire passionnante de Macondo et du dynamisme des personnes qui se sont emparées de ce projet. Ça nous donne très envie de découvrir le site maintenant. Tu nous fais visiter ?
On peut démarrer là. Typiquement devant vous, là, il y a un plancher en porte. Alors, je démarre par les mauvaises expériences. Donc, il a tenu depuis mars et en fait, la pluie a eu raison de lui. L'autre énorme, alors on est devant l'ensemble des vitres là. Rien qu'en visuel, je pense qu'on a une trentaine, quarantaine de vitres de réemploi. On a eu beaucoup de chance. Il y a eu un autre truc qui était intéressant, qui était sur le phasage du permis de construire par rapport au phasage du moment où on va récupérer les matériaux typiquement de seconde œuvre comme les fenêtres. Et bah, le fait qu'on doit faire un plan de façade avant, nous, on a eu la chance là, d'avoir le stock de 200 vitres identiques récupérées à l'EAI qui nous a été fourni au moment du dépôt de permis. Donc là, on a eu, mais si on tire la bobine de ça, là, de cette problématique de déposer un plan de façade avant de savoir quel matériau on va récupérer, en fait, on pourrait aussi complètement envisager que l'architecte donne des grandes lignes directrices sur la fonctionnalité, sur le pourcentage de carreaux qu'il va y avoir sur une façade, sur le fait qu'il faille que ce soit très aéré, sur le fait qu'il faille. Et en fait, ces grandes directives, on les donne comme consignes et le chef de chantier ou le conducteur de travaux aurait beaucoup plus de marge de manœuvre en fait, pour adapter ça en fonction des matériaux qu'il récupère. Et ça, cette relation, il faudrait peut-être la changer aussi. C'est intéressant de bosser là-dessus. Donc là, on a des carreaux. On passe devant une façade où on travaille sur les bardages en palette. Alors la palette, c'est un déchet, mais en fait, qui est pas mal réutilisé. En fait, le réemploi de la palette, c'est juste la question de est-ce qu'on coupe les arbres et est-ce qu'on s'en sert plutôt pour chauffer ou est-ce qu'on s'en sert pour fabriquer des choses. De dire que de faire des ouvrages en palette, du coup, ça permet une économie de bois. C'est vrai et pas vrai, quoi. En fait, sur la palette, il y a déjà des filières qui sont déjà mises, donc même si c'est... Donc, c'est pas le plus dur. Disons que c'est pas le problème principal à récupérer. Donc là, on va rentrer à l'intérieur. Pardon, on va vous déranger deux secondes. Alors ici, au-delà des fenêtres, on a un beau mur en terre qui est un peu notre showroom sur la terre paille. Et là, on touche du doigt une énorme quantité des déchets du génie civil. Et nous, à l'époque, quand on a déposé le dossier ADEME, on voulait vraiment travailler sur les volumes de décaissement avec l'approche des briques en terre crue, stabilisées. Du coup, elles demandent un petit peu de chaud quand même. Si demain, on décidait que toutes les cloisons intérieures étaient réalisées en briques en terre crue, des terres d'excavation, ça pourra avoir un impact majeur, quoi, je pense, en déplacement de matériaux. Donc ça, c'est un gros poste qu'on aimerait développer. On a fait plusieurs choses en terre. On a fait des enduits, on a fait des briques en terre paille, qui est de loin pour nous le plus facile de mettre en place. Enfin, c'est très intéressant. Les blocs de terre paille à l'intérieur de l'ossature bois, c'est quelque chose qui est assez méconnu et qui mériterait d'être plus connu. Au-delà de ça, on a eu des machines qui venaient de Méco Concept de fabrication de briques en terre crue. Mais la brique en terre crue, au niveau logistique, et au niveau, c'est énorme. Donc même si sur le papier c'est très beau, il faut porter la terre, la faire sécher. Une fois qu'elle est séchée, on a acheté un concasseur, un marteau, on la rend en poudre. Une fois qu'on l'a mis en poudre, on la met dans le malaxeur. Une fois que c'est dans le malaxeur, on la met dans la presse. Une fois que c'est dans la presse, on la met sur la palette. Une fois que c'est sur la palette, on attend 3 semaines que ça sèche. On l'amène de la palette à machin. Une fois qu'on l'a mis sur le mur, on l'a porté, mais 12 fois la terre, on a 2 vertèbres en moins. Et c'est vraiment un boulot très très éreintant. Mais donc c'est en fait c'est difficile de pouvoir monter une filière là-dessus à petite taille. Et là-dessus, il y en a un autre qui est en train de travailler, qui est très intéressant, c'est les Techniques Concept à Arbastens. Et eux, pour le coup, ils ont une machine qui est beaucoup plus efficace, avec des tests destructifs sur chaque bâcher de palette. Et du coup, ils ont un produit qui est beaucoup plus normé et qui est beaucoup plus intéressant. Là, on arrive derrière un peu où on voit toutes les bases technologiques qu'on essaye de développer. Il y en a une qui est particulièrement intéressante dans toutes, là, c'est le chauffe-air solaire, selon nous, qui est 100% en réemploi pour le coup, qui est une technologie complètement passive, qui va récupérer de l'air de l'intérieur du bâtiment. C'est le principe du mur trompe, et on peut aller à l'intérieur, mettre la main dessus. Vous allez voir, tu as un air à 40 degrés qui sort et qui permet de rajouter 10 degrés à la pièce de manière complètement passive. Alors là, on a mis des tuiles en noir, mais il faudrait voir les autres matériaux de récupération qu'on pourrait faire. Mais si demain, il y a une mairie qui décide que tous les bâtiments publics, type stade, école, tout ça, en hiver sont chauffés avec ça, ça peut avoir un impact considérable. Et là, on a une filière qui peut potentiellement être intéressante à industrialiser. Parce que pour moi, c'est un des soucis du réemploi, d'arriver en fait à que ce soit pas du cas par cas, en fait, d'arriver à monter des industries qui s'adaptent avec l'origine des matériaux ou la qualité des matériaux, mais qu'on a un produit qui est industriel derrière, entre guillemets, et qui sort et qui permet de toucher des gros gisements. Parce que tant qu'on reste sur du cas par cas, un artisan qui a besoin de 2 fenêtres à gauche, 2 fenêtres à droite, c'est vraiment compliqué. Là, vous avez derrière un séchoir de terre paille. Donc, on fait des blocs, c'est dans le cadre des formations. Et c'est vraiment impressionnant. Quand on connaît pas ce matériau-là, c'est vraiment très très intéressant de résistance. Ça a des super propriétés en résistance au feu. C'est un super isolant. Et puis, ça a de l'inertie et de l'isolation en même temps. Le prix du matériau, c'est une botte de paille. Je crois que c'est 5 balles. On va chez les écuries qui sont autour de chez nous. Et puis la terre, c'est la terre du site avec laquelle on fait nos tranchées de drainage et nos bons. On a de la chance et pas de chance d'avoir un sol en argile. L'hiver, il faut des bottes, mais au moins pour construire des choses, on a tout ce qu'il faut. Là, vous avez une phytoépuration, un chauffe-eau solaire qu'on a fait aussi de manière low-tech avec de la récup, avec des vieux radiateurs. Et c'est aussi, au-delà de faire des matériaux de réemploi, c'est de montrer qu'avec des technologies assez basses, on arrive à faire des bâtiments d'usage de bureaux ou d'ateliers qui sont complètement autonomes. Et ça, je pense qu'aussi, c'est intéressant dans la philosophie de la construction de réfléchir à de l'autonomie. C'est le principe des basses technologies. Le bureau, potentiellement, il est entièrement autonome. Il récupère l'eau de pluie, on la chauffe. Les panneaux solaires, là, donnent de l'électricité au surpresseur, à la lumière, à tout ce qu'on a besoin. Le chauffeur solaire amène 15 degrés de plus à l'intérieur. Et potentiellement, il manquerait un petit poêle pour le chauffer et on aurait air chaud au chaud déjà, ce qui est quand même pas mal. Alors, on peut continuer à visiter si vous voulez. Et là, c'est un poulailler qui a été fait pareil avec. Alors, les plaques, c'est des plaques de métal, c'était des armoires métal qu'on a récupérées, je sais plus où. Et les poules ont des enduits de terre à l'intérieur du poulailler. Elles sont quand même pas mal. Vous voyez, c'est des enduits en terre. Bon, c'est quand même grande classe, quoi. Un poulailler, ouais, gros luxe. Et puis ça, c'est un petit minuteur qui ferme la porte parce qu'il y a quelques renards quand même. Bon, elles nous font 4 œufs tous les matins, là. Elles sont arrivées il n'y a pas longtemps. Là, vous avez les cages. Alors, elles sont toutes petites, hein. C'est la récupération des eaux grises. Il y en a une partie qui va sur la phytoépuration, puis il y en a une autre partie qui sera là. Quand elles sont adultes, bah, c'est le même principe que le corps humain quand on sue. C'est de rafraîchir le bâtiment avec... On n'est pas que dans le réemploi de bâtiment. On récupère des matériaux de déconstruction pour en faire des outils, des fois, mais qui sont pas du coup constructifs, mais forcément, mais ça peut être du mobilier. Et bah typiquement, ça, c'est ce que fait l'école aussi. Ils ont récupéré, ils ont tout déligné là. C'est que des bois de charpente récupérés, et ils ont récupéré un panneau solaire qu'ils ont branché. On peut brancher même son portable dessus. Donc ça, c'est 100% réemploi. On a mis un peu de temps à s'équiper de tous les outils pour travailler le bois. Je vais vous montrer un peu dans l'atelier de dépotage de palettes. Bon, là, on va arriver à l'atelier dépotage de palettes parce qu'on s'est lancé sur la fabrication de composteurs 100% en bois de palette, quoi. Donc là, on a Baldé et Youssef qui sont en train de couper les clous. On essaye de travailler sur une machine qui va les couper beaucoup plus vite. Derrière, on récupère les lattes, on fait les plateaux. On a une ponceuse à bande qui va permettre de tout lisser, de tout remettre bien. Et derrière, on passe à l'atelier d'assemblage. Les palettes, on les récupère chez HeroCollect, qui est une boîte d'insertion près d'Arennes. Ici, vous avez tout un module qui est fait avec des boîtes charpentes des molles, qu'on a récupéré pareil à Montpellier. Des lattes de palettes, toujours sur l'habillage. Et Emmanuel, qui bosse sur les composteurs. Là, vous avez un module qui va partir à la Mosson, qui est un module sur la formation, notamment du réemploi, qu'on a vendu avec ACM. Et qui va avoir une serre biodynamique qui, elle, est aussi au maximum de réemploi. C'est un module mobile qu'on va placer dans le centre de la Mosson, qui est un des quartiers prioritaires de la ville, là, à Montpellier. C'est un cas dans le cadre avec ACM. Et c'est les petits débrouillards à l'intérieur qui font de la formation de réemploi, de réparation d'électroménager, et tout comme ça. Voilà, là, alors on a, c'était dans les belles opportunités, mais c'est pas ce qu'il y a de plus dur à réemployer. Le plancher massif hêtre. Vraiment, on remercie chaudement Gamme qui nous a appelé parce qu'il pouvait pas le stocker, et donc on est allé le chercher aux Galeries Lafayette, déjà démonté, déjà. Donc des fois on a des opportunités super belles comme ça. Alors on a un pistolet, nous, à clous. On a décidé de pas les retirer parce que c'est trop chronophage. Donc on coupe les clous avec soit la scie sable, soit avec la machine qu'on est en train de développer, et derrière, la ponceuse à bande, en fait, elle ponce les clous. Il y a pas besoin de les retirer.
Vous avez une structure métal?
C'est ça, extérieur. En fait, on a dû rassurer. Et du coup, ça passe par le métal, ça passe par le parpaing intérieur, ça passe par la petite finition alu au-dessus, et de réhabiller et réenchanter le truc, quoi. Là, vous êtes dans l'atelier hêtre, pareil, ils ont fait que avec du bois de réemploi. Ça, c'est que des poutres de charpente qu'ils ont délignées, qu'ils ont refait, qu'ils ont reponcé. Ça, c'est tout le parquet. Là, c'est vraiment cool. On est un peu jaloux, on aimerait bien en avoir un. Ouais, il est pas mal beau, ouais. Et puis, ils sont super fiers, quoi. Les jeunes, ça fait 2 ans. Ils viennent là et en un mois, ils ont un truc comme ça qui sort. C'est vraiment cool de les voir. Là, vous avez le terre-paille. Donc, c'est... je trouve ça complètement génial. Il n'y a pas plus facile, en fait. On met deux plaques, deux banches. C'est un genre de pisé. Mais pour les... on met de la terre, on tasse, terminé. Et ça, c'est imbattable. Et le mur, au moment de la déconstruction, là, je trouve ça trop bien, quoi. On le pousse par terre, c'est terminé. On peut faire pousser des patates dessus, quoi. Bon, alors ça sent la chèvre pendant 2 mois dans le bureau. Il y avait des pousses, c'était un mur vivant, quoi. Il y avait des pousses vertes, de la paille qui poussait partout avec l'humidité. Et après c'est bon. Bon, faudra un petit enduit de finition ou pas, quoi. Alors, je vais vous montrer les tiny. Donc les tiny, c'est issu d'une inspiration du Low-Tech Lab à Concarneau. Ils sont vraiment, enfin, pour nous, très inspirants. Ils ont décidé de mettre en ligne l'ensemble des basses technologies avec des tutoriels qui sont super bien faits. Et pour montrer à tout le monde qu'on pouvait réfléchir à une nouvelle manière d'habiter, ils ont décidé d'adapter le concept de tiny house, qui est un truc américain qui avait débarqué avec la crise de 2008. Donc une maison sur de remorque. Ils ont décidé de l'adapter avec un maximum de basses technologies. Donc là, la première, bah, c'est juste pour vous montrer le modèle. Les basses technologies, elles sont sur la suivante. Et là, on a un habitat qui est entièrement autonome, avec la limite de l'eau qui est dans le sud de la France, un peu plus compliqué, d'avoir de vivre qu'avec de l'eau de pluie les 3 mois de l'été, avec une surface de toiture qui fait 15 mètres carrés. Donc là, c'est un des modèles qui vient d'être fini là. Et bah, n'hésitez pas à monter si vous voulez voir un peu ce que ça donne dans le filet ou dans un truc. Mais voilà, on a 2 étages. Et là, en termes de réemploi, on a été un peu timide malheureusement sur le réemploi des vitres. Il y en a une seule qui est réutilisée, c'est la grosse baie vitrée de 3 mètres. Parce que en fait, pour garantir un hors-dehors d'air sur un bâtiment où toutes les fenêtres sont exposées à l'extérieur, au vent et au... On a été un peu frileux, on a eu un peu peur. Donc on a pris des menuiseries neuves. Au-delà de ça, tout le parquet que vous voyez, tout le bardage et quelques parties, ça c'est des boîtes charpentes de démonter. On a essayé d'en utiliser un maximum. On est en train de faire le calcul du crédit carbone, enfin l'analyse de cycle de vie d'une tiny house et on est quand même sur un habitat extrêmement sobre à la construction, quoi. L'autre truc, moi, que je trouve vraiment intéressant aussi sur le récit, c'est le fait de ne pas imperméabiliser le sol et de même pas toucher. Enfin, c'est-à-dire, on vit au-dessus des vers de terre, quoi. Il y a un autre truc, moi, qui me plaît beaucoup dans la nouvelle vision du bâtiment, c'est de réfléchir à l'habitat vivant. Et notamment avec des gens là qui travaillent, ils sont très intéressants, ils s'appellent Collab, et eux c'est la vie à l'intérieur du bâtiment, ils font des cages à oiseaux qui peuvent s'intégrer à l'intérieur de bâtiments vitrés ou en béton, ou donc ils font des réservations au moment de la construction, ils ont fait des calculs, ça n'impacte rien sur l'isolation ou le RT 2020, et à la fin ils viennent juste mettre la cage dedans, et en fait cette notion là d'avoir des maisons où il y a un loir qui vit dans le grenier, un hérisson qui se cache dans le feu et des oiseaux qui viennent sous les tuiles, en fait elle est vraiment importante, je trouve, dans notre respect du vivant en général. Ça fait 7,20 m la remorque sur 2,50 m extérieur, tu comptes 16 cm d'isolation, mais vous voyez, en fait, bon, alors souvent c'est vrai que la différence entre une caravane bas de gamme à 2 000 € et une tiny house à 45 000 €, on se dit mais c'est fou qu'il y ait une telle différence de prix, et en fait quand on rentre on se rend compte que c'est pas la même chose, quoi. Ça reste quand même une petite maison, quoi, c'est pas un... Donc ouais, elle est complètement autonome hormis la bouteille de gaz, on n'amène pas d'autre énergie que du bois. Il y a un petit poêle qui va se mettre là avec le tuyau qui va monter, et puis bah, je vais vous montrer l'autre là. Voilà, alors celle-là, c'est celle qui est déjà habitée maintenant depuis 6 mois et qui a sur laquelle elle a bossé de toutes les basses technologies. Donc alors, il y a plusieurs trucs. Tant qu'on est là, on peut voir là, juste derrière, le garde-manger. C'est pour s'affranchir du frigo. Donc c'est un truc isolé au nord. Une petite boîte qui est à l'extérieur et qui va garder le frais. En été, c'est compliqué. Hein. Enfin, soit on a des habitudes, on va au marché tous les matins, soit... Mais c'est vrai que... Alors dans les trucs intéressants là, typiquement le chauffe-eau solaire qui est fait avec un échangeur de frigo, et derrière c'est l'isolant de la porte du frigo. Ils ont la même taille du coup. Là on a le chauffeur solaire classique. On a de la récupération d'eau de pluie. On a une phytoépuration qui est en finalisation. On a des panneaux solaires qui fournissent l'électricité. Et l'autre truc qui est assez génial, ça s'appelle un poilito. Je vous invite à venir. Bon, c'est un peu le bordel, désolé, mais on peut le voir d'ici de l'extérieur. Ce poilito là, c'est de l'ingénierie. Ça paraît un truc bricolé de récup, mais c'est de la double combustion avec 3 bouts de palette. Il est coulé dans le béton et du coup, ça fait un radiateur pendant. C'est un truc pendant 3 heures. Le truc, il est chaud alors qu'il a mis 2 lattes de palette, quoi. C'est ultra efficace. Et le problème des poêles dans des si petits espaces, c'est qu'il fait 40 degrés pendant 5 minutes, on ouvre les portes, ça y est, il fait froid. Donc, comment donner de l'inertie? Bah, c'est ça, c'est de l'avoir coulé en béton jusqu'à la moitié. Faut un peu le maîtriser pour le lancer. Mais je trouve qu'en termes de moyens de chauffage ultra efficaces, qui va consommer très peu de bois derrière et qui est fait avec des matériaux de récup, c'est vachement... Bon, du coup, elle en a deux en expo. Là, elle va monter, elle va en faire, parce que le but de sa boîte, c'est de développer les tiny house pour les habitats d'urgence. Et en fait, de dire, avec la crise du logement des étudiants, des SDF et des migrants, des mamans isolées, les prix qui explosent, des loyers. En fait, n'importe quelle mairie qui a un peu de foncier, elle fout 10 tiny pendant 3, 4, 5 ans. C'est des trucs qui a juste amené une arrivée d'eau. Tout le reste, ils sont entièrement autonomes. Et il y a aussi des expériences qui ont été faites. Et en fait, sur les SDF, le fait de se retrouver dans des foyers, dans des bâtiments fermés, la tiny peut offrir une alternative qui est entre d'avoir tout de suite un petit extérieur, d'avoir leur petit truc à eux. Ils ont des très bons retours sur l'acceptabilité du truc par rapport au logement imposé dans des tours. Donc, on essaie de développer une activité là-dedans, ce qui nous intéresserait, de donner un peu de social. Mais après, il y a plein de particuliers qui, avec les divorces, avec les trucs, avec les machins, enfin, il y en a plein qui réfléchissent à ça, quoi.
L'envie du verre aussi.
Oui, clairement. Non, mais clairement. Après, nous, on est en réemploi sur le mobilier. Et là, on a eu de la chance, là, sur Montpellier, une boîte qui s'est ouverte, qui s'appelle Scope 3. Qui n'est pas une scope, mais c'est assez cool quand même ce qu'ils font. Ils arrivent à mettre en circulation beaucoup de mobilier d'entreprise. Et du coup, là, on a récupéré, on a fait le centre des impôts de Montpellier, on a fait le Crédit Agricole de Nîmes, on a fait des golfs, on a fait des trucs. Et en fait, très vite, on a récupéré 200 chaises, 50 tables, des armoires à tire-larigot et des choses comme ça. Donc, c'est du mobilier qu'on réutilise en tant que mobilier, qu'on n'a pas transformé, quoi. Et sinon, on aimerait bien petit à petit déjà se former auprès de gens comme GAM, qui eux ont monté depuis longtemps des filières avec Écomobilier notamment, mais c'est surtout leur organisation de normer tout ce qu'ils récupèrent. Ça, c'est vraiment très intéressant. Quand je dis normer, ça veut dire que quelle que soit la taille du bout de bois qu'ils vont récupérer, il faut que ça rentre dans les 10 cases qu'ils ont. C'est soit un chevron de telle taille qui va, soit un chevron. Et donc, il y a tout un atelier de transformation et de stockage. Et quand ils ont des commandes de mobilier pour réemployer ce matériau-là, et ben en fait, ils ont 10 cases avec des dimensions qui sont fixes. Et ça, c'est, je pense que c'est vraiment la base si on veut lancer quelque chose d'un peu industriel. Donc, en termes d'organisation d'une base de réemploi, mais je pense que Masse Réemploi a exactement les mêmes problématiques. Et c'est quelque chose à creuser, en tout cas. Bon, là, c'était dans les murs végétaux. On était avec la fondation Carasso et on leur a dit, le problème, c'est, si on veut faire de l'agriculture verticale, c'est d'aller chercher la salade à 6 mètres de haut avec une nacelle. Et du coup, on a fait un proto. Honnêtement, le prix de la salade est un peu élevé, mais on peut aller la chercher là-haut, quoi. Irriguer, bien sûr, à l'urine. Je pense qu'on a fait le tour à peu près. En tout cas sur la question du réemploi, quoi.
Je poursuis l'interview avec Guillaume Brault de chez Caprionis pour en savoir un peu plus sur ce bureau d'études.
Alors du coup, Guillaume, est-ce que déjà tu peux nous présenter Caprionis rapidement ?
Oui, bien sûr. Donc nous, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et donc depuis 2018, on s'est spécialisé dans le réemploi des matériaux de construction à travers un bureau d'études qui réalise des DIAG, des diagnostics ressources et donc maintenant des diagnostics PEMD, qui fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc ça va être aussi bien du suivi de chantier que de l'assistance à rédaction des pièces de marché, des certificats aussi d'économie de ressources pour établir un bilan environnemental d'une démarche de réemploi. À côté de ça, on a un pôle matériaux qui fait du courtage, négocie du courtage de matériaux d'occasion ou de surplus neuf également. Donc, qui fonctionne un peu comme une tête chercheuse de matériaux qui va inventorier, cartographier, caractériser toutes sortes de matériaux de gros œuvres, second œuvre, équipements thermiques, équipements électriques, disponibles sur des chantiers de démolition ou de réhabilitation ou qui dorment donc dans des entrepôts. et qui nous ont permis, notamment là, de sourcer ici à Macondo un certain nombre de menuiseries, essentiellement, des fenêtres PVC, des doubles vitrages qui ont été réutilisés ici donc, pour fabriquer des mobs, des menuiseries aux satures bois, où là, on a fait de l'upcycling, en fait, hein, ils ont récupéré uniquement les doubles vitrages. Et ils les ont réinsérés donc, dans une structure bois. On a pu aussi leur donner accès à un chantier de démolition là, d'un partenaire d'EMSI à des baies vitrées coulissantes alu. On leur a aussi, on les a mis en relation avec un serrurier ferronnier qui partait à la retraite sur Montpellier et qui leur a vendu, vraiment à prix d'amis, des machines-outils et des métaux, de la ferraille, voilà, pour notamment aussi la structure de l'école de lettres. Et voilà, on essaie de pérenniser un peu cette collaboration, demain peut-être pour un projet de serre bioclimatique, toujours sur des vitrages, mais bon, ça peut être vraiment de tout. Toutes sortes de matériaux qui peuvent être employés finalement sur tout type de projet, en fonction de leur destination, si c'est une maison individuelle ou si c'est un immeuble de 3 étages, c'est pas la même chose, évidemment, pour des questions techniques et d'assurance. Voilà un peu la présentation et les enjeux aussi de notre activité, qui est une activité émergente.
Et du coup, la collaboration avec Macondo, elle date de quand et comment ça s'est fait un peu?
Ben, on connaissait Benjamin Clouet hein, depuis un petit moment à travers sa structure EcoSec. Et bon, voilà, le mondillo un peu de l'économie sociale et solidaire dans la région de Montpellier. Macondo, bien entendu, on a été invité dès le départ à venir voir et à travailler avec eux. Donc ça va faire, oui, finalement, depuis 2020. Hein, et donc la fourniture de ces menuiseries PVC, on est passé aux choses sérieuses, entre guillemets. Et donc, on revient ici à chaque fois avec plaisir. Et tout ce que fait Macondo autour du réemploi et du low-tech, et que ce soit expérimental ou pas, hein, aussi dans une logique de pré-industrialisation, ça nous intéresse évidemment beaucoup. Nous, on est voilà, des partenaires opérationnels, hein, à la fois des fournisseurs de matériaux, donc les propriétaires de ces gisements de matériaux d'occasion, entre guillemets, donc des démolisseurs, mais aussi les artisans, les entreprises diverses et variées, pas que dans le BTP d'ailleurs, hein. Des entreprises voilà, qui refont leurs locaux, par exemple, des entreprises de services typiquement qui vont réaménager des plateaux de bureaux, c'est des partenaires opérationnels. Et derrière, en aval, finalement, on va massifier dans la mesure possible tous ces gisements, essayer de standardiser aussi, pour que derrière puisse émerger effectivement des filières locales au-delà, hein, aussi bien sur des matières de seconde œuvre, exemple du fameux plancher technique, hein, en Île-de-France, et qu'on peut imaginer sur d'autres gisements, que ce soit des menuiseries intérieures, mais aussi de la serrurerie, de la ferronnerie, des métaux, voilà, les éléments de charpente métallique, on pense que c'est une filière en devenir, les cloisons d'intérieur aussi, les cloisons amovibles, j'ai oublié. Les équipements thermiques aussi, les groupes froids, les pompes à chaleur. Aujourd'hui, c'est des équipements qui parfois sont en très bon état, où il y a peut-être une pièce à changer, et qui vont finir à la benne, dans la ferraille, alors qu'on pourrait tout à fait leur donner une seconde vie, y compris sur le territoire national, hein, pas qu'à l'export. Donc voilà, il y a encore plein de potentiel de développement de filières à une échelle voilà, industrielle.
Et justement, sur le sujet de la filière cloison, je ne sais pas si tu veux en parler, il me semblait que vous aviez une réflexion au sein de Caprice.
Oui, on voit bien que c'est des gisements massifs, régulièrement changés. On a souvent des matériaux de très bonne qualité qui sont détournables aussi. Hein. On peut récupérer les châssis, les vitrages pour en faire d'autres éléments de menuiserie. Donc il y a un gros potentiel. Et il y a aussi des acteurs opérationnels. Nous, on ne touche pas aux matériaux, hein, on fait vraiment de la mise en relation. Mais à côté de ça, on a des acteurs complémentaires, comme ici d'ailleurs Mass Réemploi ou la Grande Conserve, qui savent faire de la dépose sélective de tout type de matériaux, du reconditionnement, du stockage, etc. Et on voit émerger des spécialistes, vraiment des gens qui font ça, mais uniquement sur les cloisons, uniquement sur les éléments de charpente, uniquement sur certaines catégories très précises de matériaux. Donc oui, sur la Sur les cloisons, on le voit et ça se démontre aujourd'hui avec des acteurs sur Lyon et Toulouse notamment, qui sont en capacité de déposer soigneusement des cloisons modulaires, de les reconditionner à la marche s'il y a besoin, mettre un coup de chiffon ou un peu plus, et puis les recommercialiser en tant que matériel d'occasion, avec logiquement des garanties et tout ce qu'il faut pour les clients qui sont les mêmes, hein, finalement, que pour du neuf.
Sur Toulouse, tu parles de quel acteur en particulier ?
L'entreprise Espazo, qui démarre cette activité-là de dépose, reconditionnement et revente de matériel d'occasion, mais qui est un cloisonneur de métier.
Et si tu avais un petit mot pour les acteurs de la construction qui souhaitent se mettre au réemploi ?
On a quand même, depuis une quinzaine d'années, fait beaucoup d'expérimentations, accumulé beaucoup de retours d'expérience et montré et remontré et démontré que techniquement, logistiquement, financièrement, assurantiellement, c'était faisable et souhaitable et transposable à une échelle supérieure. Donc maintenant, il faut y aller, il faut être une force motrice.
Merci beaucoup, Ken.
Avec plaisir.
Encore un grand merci à Benjamin Clouet et à Guillaume Brou pour leur accueil et leur témoignage. C'était Julie Verrecchia pour Envirobat Occitanie, chef de projet économie circulaire et réemploi.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode d'Enviromicro, l'émission de ceux qui réduisent leurs émissions. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous et à donner un j'aime sur votre plateforme d'écoute. Le podcast est réalisé par Envirobat Occitanie. Retrouvez toutes nos ressources en ligne sur www.envirobat-oc.fr.